Alors, aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, la synthèse des yogas, le yoga des œuvres, number one, traduit de l'anglais par mère. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire l'œuvre divine. Cette œuvre, aucune règle de fabrication mentale, aucune norme humaine ne peut la fixer. Car sa conscience est sortie de la loi et des limites humaines pour passer dans une liberté divine, elle a quitté le gouvernement de l'extérieur et du transitoire pour entrer en la règle spontanée de l'intérieur et de l'éternel. Elle a laissé la servitude des formes du fini pour vivre dans la libre détermination de l'infini. De quelque manière qu'il vive et qu'il agisse, dit la Gita, il vit et agit en moi. Les règles édictées par l'intellect humain ne peuvent pas s'appliquer à l'âme libérée. Un être comme lui ne peut pas être jugé d'après les tests et les critères extérieurs que prescrivent les préjugés des hommes et leur association mentale. Il est en dehors de l'étroite juridiction de ces tribunaux faillibles. Et peu importe qu'il porte la robe de l'ascète ou qu'il vive pleinement la vie de famille, qu'il passe ses jours dans ce que les hommes appellent les œuvres saintes ou qu'il les passe au milieu des activités variées du monde, qu'il se consacre directement à conduire les hommes vers la lumière comme le Bouddha, le Christ ou Shankara, ou qu'il gouverne un royaume comme Janaka, ou qu'il se fasse homme politique ou conducteur d'armée, comme Krishna. Peu importe ce qu'il mange ou ce qu'il boit, et quelles sont ses habitudes et ses préoccupations, qu'il réussisse ou qu'il échoue, que son œuvre soit constructive ou destructive, qu'il soutienne ou restaure un ordre ancien, qu'il travaille à le remplacer par un ordre nouveau. Comment procédera le karma yogi et de quelle manière particulière? Aucune règle générale ne peut en décider. C'est du dedans que l'œuvre doit s'élaborer ou se définir. La décision est une affaire entre Dieu et notre moi, entre le moi suprême et le moi individuel qui est l'instrument de l'œuvre. Avant même la libération, c'est du moi intérieur, dès que nous en devenons conscients, que vient la sanction, le choix spirituellement déterminé. C'est dans ce sens profond qu'il faut interpréter la maxime de la Gita, quand elle déclare que la loi de nos œuvres doit être gouvernée et déterminée par notre nature. Il ne s'agit certainement pas du tempérament superficiel, ni du caractère, ni des impulsions habituelles, mais de notre être propre, au sens littéral du mot sanskrit, de notre nature essentielle, de la substance divine de notre âme. Une action divine jaillit spontanément, librement, infailliblement, de la lumière et de la force de notre moi spirituel uni au divin. Tel est l'ultime état du yoga des œuvres. La vie du monde est pleine d'exemples d'égoïsme de ce genre, et cet égoïsme peut être encore plus absorbant et plus énorme que les autres. Le danger est le même dans le yoga. Il est des êtres qui deviennent des conducteurs d'hommes éminents, en quelques cercles plus ou moins larges, et ils se sentent pleins d'un pouvoir qu'ils savent venir de plus loin que leur propre force égoïste. Ils peuvent être conscients d'une destinée qui agit à travers eux, ou d'une volonté mystérieuse et insondable, ou d'une lumière intérieure d'un grand éclat. Leurs pensées, leurs actes ou leur génie créateur ont des résultats extraordinaires. Ils accomplissent de formidables destructions qui déblayent le chemin de l'humanité, ou quelques grandes constructions qui servent de lieu au repos momentané des hommes. Ce sont des fléaux ou des porteurs de lumière et de guérison, des créateurs de beauté ou des messagers de la connaissance. Alors, je continue le maître de l'œuvre, le prochain chapitre. Un transcendant qui est par-delà tous les mondes et toute nature, ce qui cependant possède le monde et sa nature, qui est descendu en elle avec quelques parties de lui-même et la façonne pour qu'elle devienne ce qu'elle n'est pas encore. Telle est la source de notre être, la source de nos œuvres et leur maître. Mais le siège de la conscience transcendante est en haut, dans l'absolu, d'une existence divine où demeurent aussi les pouvoirs absolus, la vérité, la béatitude absolue de l'Éternel, dont nous ne pouvons avoir aucune idée avec notre mental, et dont même notre expérience spirituelle la plus haute n'est qu'une réflexion amoindrie dans un mental et un cœur spiritualisés, une ombre vague, un mince dérivé. Cependant, dans ces hauteurs émane une sorte de couronne solaire dorée de lumière, de pouvoir, de béatitude et de vérité. Une conscience de vérité, comme l'appelaient les anciens mystiques, une gnose, un être supramental, avec qui ce monde de conscience moindre et de fonctionnement ignorant est en relation secrète, et qui seul soutient ce monde et seul l'empêche de tomber dans le chaos et la désintégration. Les pouvoirs que nous nous plaisons maintenant à qualifier de gnose, d'intuition ou d'illumination sont seulement des lumières affaiblies, dont cela est la source pleine et flamboyante. Entre la plus haute intelligence humaine et cela, s'échelonnent de nombreux niveaux de conscience ascendante, mentale ou surmentale, qu'il faut conquérir avant d'arriver là ou de pouvoir faire descendre ici sa grandeur et sa gloire. Pourtant, quelle que soit la difficulté, cette ascension, cette victoire est la destinée de l'esprit humain, et cette descente lumineuse ou cette incarnation de la vérité divine est le terme inévitable de l'évolution tourmentée de la nature terrestre. Cet aboutissement prédestiné est à la fois la raison d'être de l'évolution. Notre état culminant est la justification de notre existence sur la terre. Car bien que le divin transcendant soit déjà ici-bas le Purushottama, au centre secret de notre mystère. Il est voilé par les nombreuses enveloppes et les infinis déguisements de sa magique Maya mondiale. C'est seulement par l'ascension et la victoire de l'âme ici-bas, dans le corps, que les déguisements peuvent tomber et le dynamisme de la suprême vérité prendre la place de cette trame embrouillée, faite de demi-vérités qui deviennent une erreur créatrice, et remplacer cette connaissance émergente qui, par son plongeon dans l'inconscience de la matière et son lent retour partiel à elle-même, s'est changée en une ignorance effective. Car ici, dans le monde, ce n'est pas la gnose qui agit, bien qu'elle soit là, secrètement, derrière l'existence. Mais la magie d'une connaissance, ignorance, une maya surmentale, imprévisible et pourtant mécanique en apparence. Le divin nous apparaît ici-bas comme un esprit témoin, inactif et impersonnel, pour qui toutes les choses sont égales. Un Purushottama, un Purusha, immobile et consentant, qui n'est pas lié par les qualités, ni par l'espace, ni par le temps, et qui impartialement donne son support ou son assentiment au jeu de toutes les actions et toutes les énergies auxquelles la volonté transcendante a une fois permis de s'accomplir dans le cosmos. Cet esprit témoin, ce moi immobile dans les choses, semble ne rien vouloir et ne rien déterminer. Et pourtant, nous nous apercevons que par sa passivité, pourtant, par sa présence silencieuse, il contraint toutes choses à voyager, en dépit de leur ignorance, vers un but divin, et qu'il les attire, à travers la division, vers une unité encore irréalisée, pourtant aucune volonté divine suprême et infaillible ne semble être là, mais seulement une énergie cosmique partout déployée ou quelques processus qui mécaniquement exécutent Pakriti. Mais ce n'est là qu'un côté du moi cosmique. L'autre se présente comme un divin universel, unique en l'être, multiple dans sa personnalité et le pouvoir, qui nous apporte quand nous entrons dans la conscience de ses forces universelles, la perception d'une qualité infinie, d'une volonté, d'une activité infinie, d'une connaissance vaste comme le monde, d'une félicité unique et pourtant innombrable, car à travers lui, nous devenons un avec toutes les existences, non seulement leur essence, mais dans le jeu de leur action. Nous nous voyons nous-mêmes en tout et tout en nous-mêmes. Nous percevons toute connaissance, toute pensée, tout sentiment comme les mouvements d'un seul mental et d'un seul cœur. Toute énergie et toute action comme l'élan d'une seule volonté en son pouvoir. Toute matière et toute forme comme les particules d'un seul corps. Toutes les personnalités comme les projections d'une seule personne. Tous les égos comme les déformations d'un unique je véritable dans l'existence. En lui, nous ne sommes plus séparés. Nous perdons notre ego actif dans le mouvement universel. De même, qu'avec le témoin sans qualité et à jamais détaché au-dessus de la mêlée. Nous perdons notre ego statique en la paix universelle. Alors je vais terminer. Pourtant, une contradiction demeure encore entre ces deux termes. Le silence divin en dehors de tout et l'action divine qui embrasse tout. Et nous pouvons la guérir en nous-mêmes d'une certaine manière en montant à un certain haut degré qui peut nous sembler complet, mais qui ne l'est point cependant, parce qu'il ne peut pas tout à fait transformer ni tout à fait conquérir. Certes, nous avons fait nôtre la paix, la lumière, la béatitude et le pouvoir universel, mais leur expression effective n'est pas celle de la conscience de vérité, de la gnose divine. Et bien qu'elle soit merveilleusement libre, élevée, illuminée, elle ne fait que soutenir l'expression présente de l'esprit cosmique sans pour autant transformer, comme le ferait une descente transcendantale. Les symboles ambigus et les mystères voilés du monde de l'ignorance. Nous sommes libres quant à nous, mais la conscience terrestre reste en esclavage. Seule une autre ascension transcendantale et une descente du transcendant peuvent guérir complètement cette contradiction. Seules elles peuvent transformer et délivrer. En effet, il existe un troisième aspect du maître des œuvres, un aspect intensément intime et plus personnel qui donne la clé de son mystère le plus sublime et son extase secrète. Car des profondeurs de la transcendance cachée et du déploiement ambigu du mouvement cosmique, il détache un pouvoir divin individuel qui peut servir de médiateur entre les deux aspects et nous conduire un passage et nous construire un passage de l'un à l'autre. Sous cet aspect, c'est la personne transcendante et universelle du divin qui s'adapte à notre personnalité individualisée et accepte une relation personnelle avec nous. Il s'identifie en nous en devenant notre moi suprême. Et en même temps, il se fait différent, bien que proche, en devenant notre maître, notre ami, notre bien-aimé, notre instructeur, notre père et notre mère, notre compagnon de jeu dans le grand jeu du monde, car c'est lui qui tout au long s'était déguisé derrière l'ami et l'ennemi, l'aide et l'adversaire, lui qui dans toutes les relations et toutes les activités qui nous affectent conduisait nos pas vers notre perfection et notre délivrance. Alors je termine ce chapitre, le maître des œuvres. La synthèse des yogas number one, Sri Aurobindo. Merci Sri Aurobindo, merci Mère. Merci Marie-Nous.